Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait.
Bonjour et bienvenue à tous dans votre émission Il est l'heure, Monseigneur, pour la cinquième émission de cette quatrième saison. On est en comité restreint pour l'instant. Nos invités et nos collègues nous font un peu la tête. J'espère qu'on n'a rien fait de grave. Bonjour Marc.
Bonjour Raphaël.
Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Raphaël.
Bon, comme à l'habitude, on a un personnage mystère à découvrir cette semaine et mes collègues ne sont pas en courant, donc je vais essayer de les faire deviner avec vous. Donc le premier titre qui est un indice, eh bien il s'agit de Nina Simone avec « Ne me quitte pas ». On se retrouve tout de suite après.
« Ne me quitte pas, il faut oublier tout, tout soulier qui s'enfuit déjà, oublier le temps. » Des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'affirmais des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai en demain où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce bois mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vu. Il est paru-t-il des terres brûlées dans la pluie de blé qu'en meilleur avril. Et combien le soir au conciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas.
C'était Nina Simone avec un enregistrement de Ne me quitte pas. Jean-Jacques, toi qui es un féru de musique, tu la connaissais cette version?
Ah oui, la version de Nina Simone était... Ah ben, elle a fait des grandes reprises.
pour moi, une des plus belles versions de My Way, c'est la sienne. Parce que grande plage musicale, ça s'excite, ça avec des percussions extraordinaires. My Way par Nina Simone, c'est chef-d'œuvre.
Bon, pour donner quelques indices supplémentaires hein, sur notre personnage mystère, on va dire que c'est un personnage politique de la vie française que les contemporains ne peuvent pas ignorer. Hein. Je pense que quel que soit le parti politique auquel on appartient, ce personnage a marqué l'histoire de France, à mon sens. On peut dire qu'il est né en 1927 et que ce personnage est décédé en 2017. Mmh. Voilà. Je crois que Marc a...
Oui, j'ai trouvé, voilà. J'ai trouvé. Les indices me parlent.
Oui. C'est un personnage qui n'était pas forcément destiné à la vie politique. Hein. Son père était architecte. Le personnage a fait d'abord des études de magistrature pour finir à l'Institut de politique, d'études politiques. Et en 1956, elle a commencé une carrière dans la magistrature. Voilà.
T'as dit elle.
J'ai dit elle.
Ah. Ok.
Alors j'ai pu parler de la personne.
Oui, c'est le personnage. Oui, la personne.
Ah bon.
Le personnage ou la personne. J'essaye de pas donner trop d'indices tout de suite.
Ouais, c'est ça. Alors là, c'est un faux chemin là.
Mais bon, je laisse Jean-Jacques continuer à ruminer ses idées.
Je rumine.
Bon. Marc, on va parler avec toi du bénévolat. Le 5 décembre, je crois qu'il y a une journée importante pour France Bénévolat.
Oui, effectivement, le lundi 5 décembre, il y a la traditionnelle journée mondiale du bénévolat, hein, puisque cette journée mondiale a été inspirée par les Américains au départ, hein, c'est cette démarche donc, de donner du temps gratuitement hein, pour une cause ou pour autrui, hein, pour quelqu'un d'autre, de notre entourage, de notre famille, de notre voisinage. Et donc, à cette occasion-là, nous, France Bénévolat, nous allons proposer des démarches autour du thème « Le bénévolat illumine la vie ». Donc, voilà, je lance un peu... je donne la parole à Jean-Jacques, à vous Raphaël. Qu'est-ce que vous inspire cette démarche du bénévolat? Comment vous la vivez? Comment vous la voyez autour de vous se développer?
Alors, comment je la voyais autrefois? Je ne la voyais pas du tout.
D'accord.
C'est vrai que le bénévolat ne me parlait pas. Ouais. Je ne sais pas si j'ai entendu le mot bénévolat avant d'être bénévole. Je me le demande. Et c'est vrai que, bon, du temps où on travaille et tout ça... Alors maintenant, c'est différent. Je crois que c'est vraiment dans le langage commun. On parle tellement de bénévolat dans toutes les... Bah, y a tellement besoin de bénévolat. Mais je veux dire que, il y a 30, 40 ans, moi, les bénévoles, même les associations, ça ne me parlait pas. D'abord, comme on dit, on travaillait. Donc, ben, on ne s'occupait pas d'autre chose que ben, de notre famille, du travail et tout ça. Mais c'est vrai, et il y avait certainement beaucoup moins d'associations. L'association 1901, j'ai commencé à en entendre parler aussi. Hein. Après, j'ai essayé de savoir ce que ça voulait dire. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et je crois que maintenant, bon, je veux dire que personne ne peut ignorer ce mot-là. Personne ne... Alors, qu'est-ce que ça veut dire le bénévolat? C'est vrai qu'il y a tellement d'endroits où on peut être bénévole et de tellement de façons d'être bénévole. Là, y a beaucoup de questions et les réponses, ben, je les attends.
Moi, j'ai toujours été acteur du monde associatif. Hein. J'ai fait du sport très jeune.
Mais toi, t'es jeune.
Quand j'étais très jeune. Et c'est vrai que j'ai pris part à l'organisation après des activités. Donc, je suis devenu bénévole, moi, avant 18 ans. Et je trouve que bah, le bénévolat, c'est surtout l'opportunité pour moi de changer le monde. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas tout attendre de tout le monde. Et malheureusement, les politiques n'ont pas les moyens de faire ce qu'ils annoncent.
Ou ils disent ne pas les avoir. Moi, je veux dire qu'il y a des moments... Moi, je dis qu'il y a des... Moi, franchement, il y a des moments où je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Et ils attendent un peu trop, souvent, des associations. Je trouve que...
Alors, oui, mais c'est vrai, mais justement, c'est cette complémentarité-là qui est intéressante, puisque ce que font les associations, certains, on va dire, en place, en poste, n'ont pas les moyens d'aller contre leur électorat. Donc, c'est une triste réalité, effectivement. Quand on est politique, on doit faire des compromis, on doit faire des concessions, et souvent, ça empêche l'action. Donc, je crois que nous, acteurs bénévoles, on est là pour changer le monde et faire ce que d'autres ne peuvent pas faire.
Vous savez, Excuse-moi, Marc, mais pendant que j'y pense, sûrement je vais oublier.
Oui, oui, vas-y, vas-y.
La première fois, je crois, où j'ai entendu parler de l'association, excusez-moi, et où, justement, ça me parlait un peu, c'était, ça s'appelait La Roue Tourne. C'est, La Roue Tourne, c'était une association qui a été créée pour venir en aide aux anciens chanteurs, aux anciens qui étaient vraiment dans le dénuement, parce que je ne pense pas qu'ils cotisaient, ou c'était peut-être pas facile et tout ça. Et les actes, c'était ça. Et je me rappelle de ce truc-là. Et tous les ans, il y avait une émission spéciale à la télé, dans noir et blanc, il n'y avait qu'une seule chaîne, hein, et ça s'appelait La Roue Tourne.
Moi, je réagis par rapport à ce que tu dis, Raphaël. Je pense aussi que on parle des pouvoirs publics, mais les pouvoirs publics ne pourront jamais, je dirais, entre guillemets, s'occuper de toutes les problématiques, toutes les questions qui abordent, qui sont dans la vie courante. Et justement, l'association et le bénévolat qui le porte fait qu'on peut s'ajuster au plus près des besoins de la vie quotidienne et de la vie en général. Alors, on peut parler de complémentarité, mais en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que la création de la loi 1101, qui permet de s'associer sur un sujet précis, oui, je pense que cette loi, justement, elle est vraiment formidable. S'il y en avait une à garder, c'est cette loi de 1901 qui permet à des tas de personnes de s'engager, de donner de leur temps. Et pour des choses qui sont au plus près, comme je disais tout à l'heure, au plus près de la réalité du vécu. Et ça, c'est inestimable par rapport globalement à la vie en société. Sachant que, comme tu disais, Raphaël, souvent on attend tout des pouvoirs publics, de l'État, mais je pense aussi, comme disait John Kennedy, la question aussi, c'est qu'est-ce qu'on apporte à son pays. Et à travers les associations, eh bien, on peut vraiment donner de son temps d'une manière utile et au plus près de l'activité, des besoins de la vie, tout simplement.
Alors pour réaffirmer la loi de 1901, il a été instauré récemment le contrat d'engagement républicain que toutes les associations sont censées, on va dire, toutes les associations sont censées respecter et approuver le contrat d'engagement républicain. Et ça me semble important parce qu'aujourd'hui, quand on bénéficie de ressources publiques, de subventions ou de lots de mise à disposition, c'est essentiel quand même qu'on soit en phase avec ceux qui nous soutiennent. Et c'est vrai que ça évite une certaine dérive du monde associatif hein, qui a pu exister dans les années 2000, qui était ou communautariste ou excluant. Hein. Maintenant, j'ai envie de dire, les associations sont à même de recevoir tout le monde. Ça fait partie des nouvelles règles. On va prendre le golf qui veut dire « gentlemen only, lady forbidden ». Autrefois, les femmes n'avaient pas leur place. Et plus proche de nous, j'ai envie de dire, les sociétés dans le département de Boule-de-Fort et autres, là aussi, les femmes n'avaient pas leur place il y a encore quelques années. Au nom de quoi, aujourd'hui, on se pose la question.
Tout à fait.
Et donc, le 5 décembre donc, comment s'organisera la journée ?
Alors, le 5 décembre, c'est une journée donc, où chacun peut évidemment manifester sa manière de promouvoir le bénévolat. Moi, ce que je peux parler, c'est de France Bénévolat. France Bénévolat, donc de Maine-et-Loire. Donc, on va faire une promotion autour de ce thème, le bénévolat illumine la vie. Et on le fait sous une forme de... On va faire une conférence de presse, en fait. Conférence de presse. Où on va inviter des gens pour témoigner de la façon dont ils vivent le bénévolat, c'est-à-dire ce que ça leur apporte. Et justement, je pense que on parlait tout à l'heure, Jean-Jacques, tu parlais du travail. C'est vrai que le travail c'est extrêmement structurant pour l'être humain, même au niveau de son identité. Et quand ça s'arrête tout d'un coup, notamment pour ceux qui arrêtent sous la forme bon là tel jour, c'est je prends ma retraite. Le bénévolat peut être une forme aussi d'aide à conserver, je dirais, un sens au temps qui devient gratuit, hein, le temps de la retraite. Et ça peut être une manière, je dirais, de donner du sens à ce temps-là, donner du sens au temps. Et c'est vrai qu'il ne s'agit pas de faire passer tout son temps dans l'association, mais ça peut être une partie intéressante et qui permet de garder du contact avec les autres. Parce que je crois que ça, c'est important pour équilibrer la vie de chacun. même pour sa santé tout simplement, d'être en contact et de travailler, d'œuvrer avec les autres à une cause qui nous semble utile ou pertinente.
Et ce que je trouve aussi important, c'est que dans le monde associatif, on peut avoir l'opportunité de s'épanouir et de faire ce qu'on n'a pas l'occasion de faire à d'autres moments. Tu parlais du cadre professionnel, de l'activité, c'est parfois très réducteur. Quand on est à un poste d'administratif ou un poste de production ou un poste de gestionnaire, une journée peut ressembler à celle de la veille et du coup, l'épanouissement, il n'est pas toujours total. Il y en a qui s'éclatent dans ce qu'ils font et c'est tant mieux. Mais effectivement, le monde associatif permet d'ouvrir un petit peu les chakras de tout le monde. Et puis voilà, que ce soit dans le milieu culturel, sportif, dans le milieu de la transmission de connaissances. Enfin, on a reçu de nombreuses associations ici et ils ont toujours été très heureux de présenter ce qu'ils faisaient, que ce soit l'outil en main, l'université du temps libre, l'institut municipal. Enfin, il y a plein de secteurs où on peut vraiment contribuer, bénéficier évidemment, mais c'est pour moi vraiment le moteur principal de l'investissement de bénévolat, c'est quand même de s'éclater d'abord.
Ouais, d'ailleurs, je vous en ai déjà parlé dans une rubrique, mais on parle du plus du bénévolat, c'est-à-dire le P du plaisir d'abord. Hein, le plaisir, c'est important. Le lien, le L du lien, être en contact avec les autres, l'utilité, être utile, et puis avoir le S, le sens, donc le dernier mot du mot plus, la dernière lettre du mot plus, et le sens, c'est le sens par rapport à ce qu'on a envie de profondément en soi, ce qu'on a envie de vivre, voilà, de vrai dans un sens où on a du plaisir, de l'intérêt, et ça, c'est vrai que dans le cadre du travail, c'est pas toujours possible à 100%, hein.
Bon, justement, je te propose de donner un petit peu d'utilité et à la prochaine chanson pour donner du sens au personnage mystère. Donc, on écoute tout de suite les Rita Mitsuko avec Le Petit Train. À tout de suite.
Yeah.
C'était le petit train interprété par Lerita Mitsuko. Je crois que ça a mis sur la piste Jean-Jacques. Hein. Ça a confirmé la piste de Marc. Donc les indices sont pas trop mauvais pour l'instant.
Très bon.
Alors, oui, évidemment.
Qu'est-ce que vous pouvez indiquer aux auditeurs pour les mettre encore mieux sur la piste? Tout à l'heure, je vous ai parlé en off de l'année 1974, qui pour moi est une année phare de sa carrière. Mais qu'est-ce que vous ajouteriez sur le personnage?
Elle finira...
Difficile de dire quelque chose sans justement dévoiler un maxi... Oui, c'est... Oh, pardon. je vois Raphaël qui me fait des grands gestes. Le micro. Ouais. Non, je dis que c'est difficile parce que t'as eu raison, t'as donné ça vraiment au compte-gouttes et moi, j'ai hésité. Là, maintenant, on va dire quelque chose qui va déclencher, quoi, forcément. Ah oui, c'est lui. Alors, ou c'est elle.
Moi, je vais donner un indice supplémentaire, à moins que Marc, tu aies d'autres choses à dire, mais c'était aussi un personnage européen. Elle a été, je dis elle maintenant, on précise, elle a été la première présidente de l'Union européenne, et qui ne s'appelait pas comme ça d'ailleurs à l'époque, c'était pas encore l'Union européenne.
Mais je peux ajouter que elle a à son nom maintenant une station de métro à Paris.
Oh, alors ça, je n'avais pas cette information. Elle le mérite. Jean-Jacques, est-ce que tu veux continuer avec une petite chronique de l'UFC que choisir?
Mais bien sûr. Nos vêtements polluent la planète. L'achat de vêtements neufs, sans modération, est un phénomène déraisonnable pour le budget des ménages. Cette industrie est également très préjudiciable pour l'environnement, compte tenu de ses procédés de fabrication. Les marques de prêt-à-porter comme l'espagnol Zara, le suédois H&M, le japonais Uniqlo ou le chinois Shine renouvellent constamment leurs modèles. Leur but est d'entretenir un commerce hystérique, bien loin des réels besoins pour s'habiller normalement, plaire ou se plaire sans excès. Ainsi, l'enseigne Zara a mesuré une moyenne de 17 visites annuelles dans ses magasins par des clients en maraude ou frénésie d'articles nouveaux. Les prix ont beaucoup baissé pour favoriser cette accélération des achats sans exploser la dépense. Cette solution résulte évidemment d'une production au prix le plus bas possible, sans considération pour la rémunération de la main-d'œuvre et la préservation de la planète. Dans ce modèle, la préparation de la fibre, la teinture, puis l'assemblage peuvent être répartis sur des pays différents en fonction des coûts. L'impact environnemental est principalement triple. D'abord, la consommation d'eau pour la culture du coton. Ensuite, le bilan carbone désastreux des fibres synthétiques. Enfin, les rejets de microparticules dans les eaux fluviales après lessivage domestique ou traitement chimique. L'industrie et le commerce des textiles seraient la quatrième cause principale du changement climatique après l'agroalimentaire, le bâtiment et les transports, selon la Commission européenne. Pour couronner le tout, le recyclage des vêtements est difficile et coûteux à organiser. D'une part, plus d'une centaine de composants utilisés pour leur fabrication sont classés dangereux pour l'environnement ou nocifs pour la santé humaine. D'autre part, des matériaux très différents les composent, associant au tissu du métal, du plastique ou du cuir.
Merci Jean-Jacques pour ces informations. Alors, c'est vrai que l'habillement, c'est j'ai envie de dire quelque chose d'essentiel. Hein, on peut difficilement s'en passer. Après, ce qu'il faut effectivement montrer du doigt, c'est un peu la consommation frénétique du consommateur moyen. Et c'est pas toujours simple de sortir de ce schéma qui juge beaucoup sur l'image aujourd'hui quand même. Donc, quand on est banquier, quand on est assureur, on se doit de bien se présenter. Moi, ce qui m'interpelle plus, c'est pas le problème d'être bien présenté, c'est qu'une chemise aujourd'hui ne fasse plus qu'une seule saison. Et on sait qu'on fabriquait des vêtements durables. Je comprends pas que effectivement les marques s'évertuent à avoir des produits de saison. Et d'ailleurs, moi, ça me fait bondir quand j'entends ma chère et tendre épouse qui me parle de vêtements de demi-saison. Je comprends pas.
Ah mais si, c'est entre l'été et l'hiver, il y a l'automne et l'automne, c'est pas la même température, c'est pas le voilà. et traditionnellement, on parle de vêtements de demi-saison. Par contre, sur la notion de quantité de vêtements de renouvellement, ces approches d'entreprise que tu évoquais, Jean-Jacques, il n'y a pas de secret, c'est pour faire de l'argent. Parce que sur le vêtement, les marges, notamment de ceux qui vendent les vêtements, sont quand même conséquentes. Hein. Et donc, il faut renouveler. À chaque fois qu'on renouvelle, à chaque fois, il y a une marge qui se dégage. Hein.
Ce dont tu n'as pas parlé, c'est du coût social des vêtements. Parce qu'effectivement, quand on fabrique au Bangladesh, en Afrique du Nord, tu l'as dit ?
Considération pour la rémunération de la main-d'œuvre et la préservation de la...
Je vais couper.
J'en ai pas mis des tonnes, mais je l'ai quand même évoqué. J'ai lu ma chronique avant de la lire.
Je serais curieux de savoir quelle est la quantité de vêtements qui est fabriquée en France.
Bien entendu. On aurait pu aussi évoquer, bien sûr, les enfants qui fabriquent.
Oui.
Mais évidemment, on le sait. À la limite, je crois que tout le monde le sait maintenant.
Oui.
Non, personne ne peut l'ignorer.
Mmh. Oui.
Voilà. Après, est-ce qu'on veut le savoir, c'est autre chose. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, fabriquer en France, ça a un coût important. Mais même en fabriquant en France, j'ai l'impression que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, ils sont rares, hein, les fabricants qui continuent de faire en France. Mais moi, par exemple, j'ai des jeans fabriqués en France. J'ai le sentiment qu'ils ne durent pas plus longtemps que des jeans... Voilà, la qualité, on a rogné pour que, effectivement, ça se renouvelle plus souvent.
C'est un prétexte qui n'est pas forcément toujours avéré, absolument. La qualité française.
Et derrière c'est le ressort de la société de consommation, c'est-à-dire, on consomme par rapport à ce qu'on a besoin. Mais ça va bien au-delà, c'est-à-dire que c'est... Alors, comme le vêtement, ça, c'est lié à l'identité de la personne, l'image de la personne, donc on joue là-dessus pour renouveler en permanence.
J'ai toujours l'image, quand je parle de ce genre de choses, c'est-à-dire les fameuses journées soldes, où les gens s'agglutinent devant la porte avant que ça s'ouvre, et puis ça rentre, et puis après on les interview. On dit, mais vous avez acheté ça, tout ça. Non, j'en ai pas besoin, mais c'est surtout le prix qui m'intéressait. C'est pas le besoin. Et c'est fou, quoi. Et là, c'est vrai que...
Tu parlais de 17 passages chez Zara de leurs clients. Ça m'est totalement étranger, mais après, je crains que dans notre société moderne, on existe par la consommation. C'est-à-dire qu'on est ce que l'on porte. Regrettable, quoi.
Bien sûr, mais pas oublier qu'on fait société autour de la consommation. On parle de société de consommation. Donc, c'est la valeur... qu'on partage le plus. Et évidemment, c'est bien orchestré. Mais il ne faut pas oublier qu'on a parlé de société féodale, mais là, on est dans une société de consommation. Et c'est ce qui nous caractérise le plus. Et avec tous les excès, à la fois pour le porte-monnaie, mais aussi pour l'environnement, avec toutes ses conséquences.
Mais je préfère franchement l'être au paraître.
Ah oui. J'ai une autre formule, l'avoir ne facilite pas l'être.
D'où on peut parler de choses qui ne m'intéressent pas du tout, c'est-à-dire comment m'habiller, tout ça, c'est ma femme, c'est l'affaire de ma femme. Comme pas mal d'hommes, d'ailleurs. Mais je veux dire, on est quand même capable de discuter là-dessus et de trouver plein de faux arguments ou de vrais arguments.
Bon, on va essayer d'élever un tout petit peu le niveau.
Moi, je trouve qu'il est très haut.
Oui, mais on ne va pas égaler notre personnage mystère. On va écouter une nouvelle chanson qui est interprétée par Jacques Higelin et Brigitte Fontaine, « Cet enfant que je t'avais fait ». Et on se retrouve tout de suite après pour dévoiler notre invité, notre personnage mystère, et puis parler du personnage en lui-même. À tout de suite.
Cet enfant que je t'avais fait, pas le premier mais le second, te souviens-tu? Où l'as-tu mis? Qu'en as-tu fait? Celui dont j'aimais tant le nom, te souviens-tu?
Offre-moi une cigarette, j'aime la forme de vos mains. Que disiez-vous?
Mais cet enfant, où l'as-tu mis? Tu ne fais attention à rien. Te souviens-tu? Il ne fait pas chaud aujourd'hui. L'enfant doit avoir froid ou faim. Te souviens-tu?
Vous êtes tout à fait mon type. Vous devez être très ardent. Que disiez-vous? Je crois que je n'ai plus la grippe. Voulez-vous monter un moment? Que disiez-vous?
Mais je t'en supplie, souviens-toi. Où as-tu mis ce bel enfant? Te souviens-tu? Je l'avais fait rien que pour toi, ce bel enfant au corps tout blanc. Te souviens-tu?
C'était Jacques Higelin et Brigitte Fontaine. Autour de cette chanson, Cet enfant que je t'avais fait, qui est une chanson un peu lourde, hein, parce qu'il y a un gros décalage entre monsieur et madame. Et pour le coup, effectivement, ça ramène aussi aux événements dont on peut parler pour notre personnage mystère. Qui dévoile notre personnage?
L'année de la chanson, 68.
68, hein. Donc, là, effectivement, on est bien avant l'année 74, qui pour moi l'événement majeur de la carrière de
Simone Veil.
Voilà, merci Marc. Effectivement, Simone Veil, personnage politique aujourd'hui que personne n'ignore. Hein, elle a été fondatrice de l'Europe, hein, quasiment. Elle a pourtant une expérience de vie qui est pas simple. Elle a été déportée, elle a vécu la Shoah. En toute discrétion, du reste, hein, tout le long de sa carrière, elle n'en a pas fait un outil politique.
On a entendu parler uniquement qu'après.
Ouais.
Donc, mais même, elle, apparemment, elle était très discrète, même avec ses enfants. Ses enfants, on n'en savait pas grand-chose.
Oui. Je pense qu'elle a su s'appliquer à elle-même des règles qu'elle ne pourrait pas exiger des autres. Enfin, le sens du pardon, je pense qu'il est incommensurable dans sa personne. Et elle a supporté quand même le pouvoir, le combat des autres. Et donc en 1974, la loi pour l'avortement, ça a été quelque chose qui a quand même révolutionné la vie des familles. Hein. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord sur le sujet et chacun a sa morale sur ce sujet. Mais voilà, moi je pense qu'on a une société française qui est celle qu'on a aujourd'hui, un peu mieux maîtrisée aussi grâce à la gestion du planning familial.
Et s'est retrouvée pour vendre... Enfin, pour présenter et faire accepter cette loi, elle s'est retrouvée devant une assemblée de 95% d'hommes. Mmh. Si les chiffres sont justes, mais je crois que je les ai notés, 95% d'hommes. Et donc, ça a été d'une violence absolue. C'est-à-dire qu'elle a fait l'objet, au niveau de l'hémicycle, mais aussi en dehors, de pressions énormes pour justement faire en sorte que cette loi ne passe pas. Parce qu'il y avait, il y avait une partie de la société qui était vraiment contre. Et les députés, évidemment, représentaient une partie des députés représentaient. Mais c'est passé parce que la bataille, quand même, au niveau de l'Assemblée, a duré 72 heures. Mmh. Donc, ça a été quand même quelque chose de très important.
Tout en sachant quand même que tu disais 95% d'hommes, mais tout en sachant que toutes les femmes n'étaient pas d'accord avec elles non plus.
Mais bien sûr.
Une société très patriarcale et, on va dire à l'époque, encore très catholique.
C'était d'autant plus courageux de sa part à elle.
Mais je pense qu'elle a, vu ce qu'elle a vécu, elle en a parlé dans différents livres ou interviews, elle a vécu quand même quelque chose de terrible au niveau de dans ce choix de Birkenau, Auschwitz-Birkenau. Et à partir de là, je pense que ça a été pour elle quelque chose à la fois. Elle a été très résiliente, en fait. Elle avait une force terrible. Elle s'est nourrie positivement de cette expérience, je pense. Et après, cette volonté qu'elle a traduite dans la politique a été remarquable. Elle est la sixième femme à être rentrée à l'Académie, si je ne me trompe pas, et la cinquième femme à rentrer au Panthéon avec son mari suite à son décès. Donc, elle a été très rapidement, et c'était d'ailleurs c'était une des personnes qui a été le plus rapidement admise au Panthéon. D'habitude, ça prend un peu plus de temps, mais là, compte tenu de sa vie et de ce qu'elle avait apporté à la France, Et donc, c'est Jean d'Ormesson, je crois, quand il l'a reçu à l'Académie française, c'est lui qui l'a accueilli, a dit que elle était à la fois il y a en vous la tradition et la modernité. C'était un peu comme ça qu'il l'a défini, parce que c'est vrai que à la fois issu d'une famille juive, avec tout ce que ça comporte comme référence, et puis en même temps cette vision moderne. Et puis en plus, le fait qu'elle soit, qu'elle ait vécu ce qu'elle a vécu en Allemagne, dans ses camps, et qu'elle soit première présidente du Parlement européen, de l'Europe, je trouve que c'est quand même un parcours incroyable.
Exemplaire.
Et pour la France, je crois que c'est une digne représentative de la France. Enfin, c'est remarquable.
Bon, je n'ai pas exagéré donc, quand je dis que tous les contemporains doivent connaître ce personnage.
Oui.
Hein? Elle fait, c'est une sorte de modèle. Après, on est d'accord ou pas d'accord avec toutes les idées, mais elle a conduit des chantiers que peu de politiques ont eu l'occasion de mener à terme, quand même. On va écouter une chanson qu'on pourrait lui dédier également, de Véronique Sanson, qui s'appelle « Je reviens de loin ». Je pense que ça se prête à son expérience.
C'est sûr.
À tout de suite.
Jamais revoir la couleur de la mer. Le soir, je reviens de loin. Je reviens de loin. Je reviens de loin. Si vous n'en croyez rien, demandez à mon ange gardien. Et j'ai bien cru ne plus jamais sentir sapin bleu, bleu gris, je reviens de loin, je reviens de loin, je reviens de loin. Si vous n'en croyez rien, demandez à mon ange gardien. Je pleurais du matin.
et j'avais perdu tout espoir. Ma vie entière était bercée par le hasard. Et maintenant, la vie comme une ombre, elle maintenant m'a repris sous son aile et je n'aime qu'elle comme avant. Je ne plus jamais danser devant le feu les soirs d'hiver. Je reviens loin, je reviens loin, je reviens loin. Si vous n'en croyez rien, demandez à mon ange gardien. Elle me regarde sans me voir. Et même au soleil, je me sentais seule dans le noir. J'ai bien cru ne plus jamais revoir la couleur de la mer. Le soir, je reviens loin, je reviens loin, je reviens loin. Si vous n'en croyez rien, demandez à mon ange gardien.
Donc, les rires ne disent pas beaucoup l'ambiance qu'il y a dans le studio. C'est très sérieux. Hein. Faut pas s'y croire. On
parlait pas de choses rigolotes.
Ouais. Donc c'était Véronique Sanson avec Je reviens de loin et on parlait à l'instant là de pendant la chanson des camps obligatoires et autres. On va dire drames.
Le service
de la
travail obligatoire, le STO. Voilà. Mais bon, c'était pas forcément gay, évidemment. Et bon, moi, j'y étais pas, évidemment. Mais je veux dire que non, mais c'est des camps de concentration. Et tout ce qu'on a découvert. Tout ce qu'on...
Et je crois que de nous trois, ce qu'on a en commun, c'est qu'on n'en sait pas grand-chose, parce qu'effectivement, ceux qui l'ont vécu sont restés très discrets, très pudiques, très traumatisés, certainement. Et c'est vrai que finalement, on l'apprend plus par ce qu'on lit dans les médias ou les témoignages de porteurs que par l'histoire de notre famille.
Mais tu sais, mais même les films qu'on a vus, les films d'époque, hein, les films notamment de la libération des camps de concentration, je veux dire, moi, il y a des fois, souvent, je détourne les yeux encore. Hein.
Oui, c'est une violence absolue.
C'est pourtant en noir et blanc, l'image n'est pas forcément bonne. Mais je me dis, mais c'est pas possible.
Il y a des choses insoutenables, et ce qui est insoutenable, c'est que ça puisse aussi perdurer aujourd'hui dans certaines régions du monde.
Et surtout qu'il y en a qui le nient. Et ça, c'est...
Bon. Allez, on va essayer de s'alléger un petit peu la besace, là. Et puis, je vais vous proposer un nouveau pour ou contre, ça fait longtemps.
Hein. Oh non. Non, mais c'est bien.
On est bientôt au mois de décembre.
Et pour ou contre Noël.
Alors non, pas pour ou contre Noël, mais pour ou contre le Père Noël.
Oh ben, j'allais le dire.
Ou pour ou contre la Saint-Nicolas, enfin voilà. Et, qu'est-ce que vous en pensez de ce personnage? Et d'abord, est-il, existe-t-il, n'existe-t-il pas? Vous avez deux heures. Non, c'est vrai que voilà, ça va être omniprésent pendant tout le mois de décembre.
C'est un sujet vachement intéressant, et je veux dire, est-ce que tout le monde se rappelle du moment où on a appris que le Père Noël, on le remettait en cause? J'ai pas dit la phrase, parce qu'imagine qu'il y a des enfants
Qui écoutent. On est bien d'accord.
Mais c'est vrai, et je m'en souviens.
Ceux qui nous ont, si je dis pas de bêtises, ceux qui nous ont appris l'existence du Père Noël, c'est Coca-Cola. Donc, il n'est pas si vieux, ce personnage, alors que bon... Après, bon, c'est vrai qu'il y a 100 ans, il offrait quoi? Des clémentines, des oranges. Et depuis, qu'est-ce qu'il offre? Bon, des téléphones portables, des jeux électroniques, des petits trains en bois, ça existe encore, hein, mais voilà.
C'est revenu aussi, mais bon, je suis pas sûr que ça soit quelque chose de... C'est comme, tu sais, alors, je sais pas, mais tous les jouets en bois, c'est magnifique, c'est très beau, c'est plein d'inventions et tout ça, mais c'est un peu comme si tu montres à des enfants maintenant les vieux films en noir et blanc de Charlot et tout ça. Est-ce que vraiment ça les intéresse? Est-ce qu'ils ont tellement vu d'autres choses? Je sais pas.
Mais justement, peut-être que comme ils ont vu tellement d'autres choses, il faut leur faire voir quand même, hein, parce que
il faut essayer.
Il y a de la magie dans tout ça. Enfin, après, je pose le problème un peu brutalement, pour ou contre le Père Noël. Personnellement, je suis ni pour ni contre, bien au contraire. Mais non, faut voir la magie dans les yeux des enfants. On a un Père Noël officiel à Angers qui est extraordinaire. Enfin, si vous ne fréquentez pas le soleil d'hiver, faut absolument aller voir ce Père Noël qui est magnifique dans son habit authentique, hein, je précise, avec sa vraie barbe, et il n'a rien à envier au faux Père Noël.
Et puis l'autre jour, j'entendais qu'à Libourne, si on écrit sa lettre au Père Noël, il y a des personnes qui le Père Noël répond.
Oui. Hein,
donc par courrier.
Je l'ai souvent fait avec mes enfants.
Et c'est intéressant parce que au départ, c'est dans l'histoire de cette affaire-là, il y avait des lettres qui étaient écrites effectivement et la poste les recevait, mais voilà, il n'y avait pas de suite. Le Père Noël ne répondait pas. Et en fait, il y a une personne de la poste, je crois que c'est une factrice, enfin, qui, voyant ça, eh bien, s'est dit pourquoi pas répondre. Et c'est parti comme ça. Mmh. Et puis depuis, la tradition.
Alors, continue. Ça, je ne savais pas qu'il y avait une réponse. Par contre, je sais que, je l'ai entendu l'autre jour encore, que tu marques sur ton enveloppe Père Noël et apparemment, ça arrive à une même adresse. Bon, mais ça arrive. Mais alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut qu'il y ait une réponse, mais il faut que la personne ait mis son adresse.
Oui, bien sûr. Mais si elle a mis son adresse, logiquement, il y a une réponse.
Et avec des adresses magiques, hein, avenue des poussières d'étoiles.
Et Raphaël, toi, tu l'as expérimenté, ça.
Ça fonctionne. Et effectivement, le Père Noël répond à ceux qui lui adressent un courrier, en laissant l'adresse, évidemment. Ouais. Mais non, ça marche bien.
Moi, mes souvenirs, c'est vrai que c'est... C'est magique, quoi. Enfin, quand on y croit, hein, on croit au Père Noël, comme on dit. Mais c'est un moment, enfin, dans l'année où vraiment cette idée de d'ailleurs, c'est un moment familial aussi. Hein, c'est faut voir ça comme ça avant tout. Et puis le cadeau, ça reste quand même.
Bon, là, on est plutôt dans le pour le Père Noël.
Oui, moi je suis assez pour.
Maintenant, si je vous parle des numéros téléphoniques surtaxés. Appelle le Père Noël. Voilà, je pense qu'il y a des parents qui doivent maudire ces messageries-là qui sont facturées au prix fort et qui sont pas très magiques au final. Enfin, ce ne sont que des automates. Est-ce que quelqu'un l'a expérimenté?
Non, j'ai pas. Bon. Pas expérimenté.
Alors moi, je l'ai pas expérimenté, mais j'ai eu des amis qui m'ont dit que les enfants avaient composé le numéro et effectivement, il semblerait qu'ils soient plutôt déçus les enfants parce que c'est une bande sonore qui défile et pour le coup, il y a rien de personnel, d'individualisé, même si la lettre du Père Noël est probablement standardisée. Voilà, ça reste quelque chose qui est adressé personnellement et ça.
Ça touche. Hein,
ça réveille la magie de Noël. Quoi. Bon. Donc, Père Noël pour, contre, moi, mitigé.
Ah non, le Père Noël, moi je suis pour. Je suis pour la magie, comme tu dis. Bon, la couleur rouge, qui est, bien sûr, c'est Coca-Cola, alors qu'en général, bon, c'est pas forcément, ça pourrait être blanc ou ça pourrait être bleu.
Il est vert parfois.
Il est vert parfois. Mais non, mais moi, je vraiment le traditionnel.
Et le vert, ça doit être pour se camoufler dans le sapin.
Mais c'est vrai que, tu sais, tout ce qui est commercial, bon, je le zappe. Quand on est enfant, on le zappe complètement. Je veux dire qu'il y a que les... Et autrefois, on n'en parlait pas trop. Maintenant, mais même le côté religieux qui vient avec, hein, la messe de minuit, tout ça, bon... Je peux pas être contre parce qu'il y a tellement de douceur, tellement de gentillesse et tellement de belles choses. Les chants, tu t'imagines, tu sais, toute la population d'un petit village qui se dirige vers l'église le soir et tout ça, je trouve que c'est des magnifiques. Et combien il y a eu de cartes postales qui ont été écrites?
Bien sûr.
C'est un temps de communion au sens propre du terme. Et c'est vrai que l'on soit catholique, que l'on soit protestant, musulman, juif ou autre, le temps de Noël, c'est un temps à part. Et même les guerres, parfois, peuvent s'arrêter, ce temps-là.
Bien sûr.
Donc, c'est quelque chose de hautement symbolique et qui fait du bien dans, dans l'esprit de tout le monde.
Et puis c'est un moment de l'année, quand même, on est au cœur de l'hiver, le 21-25 décembre, c'est ces moments où voilà, on a besoin de chaleur, de se réchauffer, ouais. de se faire du bien. Quoi. Ouais. C'est sûr. Ça compte aussi. Hein.
Bon. Bien sûr.
Avec pour ou contre le Père Noël, on pourrait rajouter pour ou contre les chocolats de Noël, le vin chaud.
Je suis pour. Ah, voilà, attends, on est pour à 100%.
Faut pas exagérer quand même.
Bon, on va. Alors, je vous invite, moi, vraiment, là, dans quelques jours, à aller dans les rues d'Angers, profiter du soleil d'hiver, où il y a. Alors, c'est très commercial.
C'est pas encore commencé, là. Hein.
Ça va commencer. Ben, si, ça a commencé, à l'instant de cette diffusion de mission de radio.
Il y a un moment que c'est commencé.
Bah oui. Non, même si c'est effectivement à une vocation un petit peu commerciale, il y règne une ambiance qui est quand même bien plaisante, oui, je pense, pour tout le monde. Avant ça, je vous propose d'écouter, ne quittez pas votre poste radio, on écoute tout de suite La Foule de Édith Piaf.
Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emporté par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Et la joie qu'elle a poussée par son sourire me transperce et rejaillit au fond de moi. Mais soudain, je pousse un cri parmi les rires quand la foule vient l'arracher d'entre mes bras. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé.
Pas possible.
Donc, c'était Édith Piaf avec La Foule. Alors, on était en train de faire nos listes d'achats de Noël, là. Non, on était surtout en train de dire que, effectivement, les denrées augmentent un petit peu, mais qu'il est du devoir de tout le monde de consommer raisonnablement, c'est ça ? Alors, on était sur des recettes pour arranger les restes. Donc, la soupe de pain, les croûtons, il n'y a pas de pain perdu, hein, on est d'accord ?
Pas grillé.
Ouais.
Puis avant de faire les courses, vérifiez bien si dans le réfrigérateur, t'as pas déjà
exactement. La dose.
C'est pas la peine, quoi. Est-ce qu'il y a des fois, ah, j'en avais déjà. Voilà.
Bon. On arrive au terme de cette émission. Les prochaines fois, on va avoir des invités, j'espère. J'espère aussi qu'on retrouvera Josiane. Josiane qui nous manque. Hein. Josiane, reviens-nous, je t'en supplie. Hein. Et puis Ricardo, voilà, on espère le retrouver également la prochaine fois. Il est rentré de vacances, si tout va bien. Enfin, Il a un beau métier, lui. Hein. Bon, le bénévolat, on en reparle la prochaine fois, Marc.
Oui, on pourra en parler.
Tu nous feras état de...
On est tous bénévoles, là.
On est tous bénévoles, effectivement. Et les auditeurs peuvent tous le devenir. C'est ça qui est important de le préciser.
Il y a du potentiel. Hein.
Ça donnera du sens à votre vie.
Ouais. Et puis, c'est vrai qu'on rencontre des chouettes personnes. Hein. On parlait de Simone Veil tout à l'heure, on disait qu'elle avait connu le pire et qu'elle avait fait le meilleur. On ne lui arrivera pas à la cheville, probablement, mais on peut changer le monde, nous aussi. Jean-Jacques, est-ce que tu as des informations à passer pour cette fin d'émission? Nous prévenir de deux choses ou pas?
Non, mais on en a parlé déjà à la dernière émission qui aura peut-être été diffusée, je ne sais pas. Hein, c'est-à-dire que par rapport aux élections chez les bailleurs sociaux, donc ça c'est important que tous les locataires de tous les bailleurs sociaux votent pour la liste qu'ils souhaitent. Bon, l'UFC que je choisis, ça sera encore mieux, mais bon.
La date d'échéance,
hein? La date d'échéance, normalement, c'est le 1er décembre, donc il faut voter avant le 30 décembre.
Le 30, il vous reste 3 jours, quoi.
Au soir. Voilà. C'est pas... Mais il est encore temps si vous ne l'avez pas fait.
Marc, est-ce que tu as des informations pour France Bénévolat à faire passer?
Pas spécialement, mais si ce n'est que effectivement, souvent les associations manquent de bénévoles. Et le conseil que je leur donnerais, c'est qu'elles diversifient leurs sources d'appels au bénévolat, par tous les canaux possibles.
Par là-dessus, je rajoute mon petit mot pour France Alzheimer 49. Venez changer le monde avec nous. Et puis voilà, on va se dire à dans 15 jours pour une nouvelle émission de Il est l'heure, Monseigneur. Merci Marc.
Merci.
À bientôt. Bonne semaine à tous.
Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette. On se sentait chez les airs, chez les airs, chez les airs, à bicyclette.
Radio G. www.radio-g.fr